Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Dimanche, les Italiens se sont rendus aux urnes pour élire leurs députés et sénateurs. Des élections législatives qui se sont soldées par une victoire du mouvement 5 étoiles qui devient avec 32% des suffrages le premier parti d'Italie, mais également l'alliance de la Ligue, ex-Ligue du Nord d'extrême droite, avec le parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia, qui obtient 37% des voix. Bonjour Anaïs Ginori.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, correspondante à Paris pour le quotidien italien La Repubblica, et puisque j'évoquais Marguerite Yourcenar, j'ai trouvé cette phrase dans les mémoires d'Adrien. Je me disais que seules deux affaires importantes m'attendaient à Rome. L'une était le choix de mon successeur qui intéressait tout l'Empire. L'autre était ma mort et ne concernait que moi. Il s'agit d'Adrien qui parle. Est-ce que ça pourrait être Berlusconi, par exemple ?
Oui, ça pourrait être Berlusconi, même si Berlusconi pense qu'il est immortel. En tout cas, il travaille pour ça. Donc
il est bien conservé, en tout cas.
Il travaille beaucoup pour se conserver. Et je pense aussi qu'il n'a pas du tout envie de trouver un successeur. Et même si c'est vrai que ça serait le cas, parce qu'il règne quand même sur la droite italienne depuis 20 ans. Et il a eu effectivement un score décevant par rapport à ce qu'il attendait avec... Ce jeune Matteo Salvini, le dirigeant de la Ligue, qui l'a dépassé dans les résultats. Mais voilà, je pense qu'il veut continuer à peser dans la vie politique. Il n'a en tout cas pas annoncé encore son retrait, malgré que ça puisse surprendre nos auditeurs français.
Et il y a un autre homme beaucoup plus jeune qui pourrait songer à sa mort politique en Italie, c'est Matteo Renzi.
Oui, voilà, on voit en ce moment en Italie ce que vous avez connu le printemps dernier, ce dégagisme. Donc il y a vraiment un vote qui a exprimé un ras-le-bol et aussi une envie de renouveler la classe politique. Donc ça vaut pour Silvio Berlusconi, mais ça vaut pour Matteo Renzi. C'est l'homme un peu qui est vraiment le grand perdant de ce vote. Il a perdu. C'est un personnage assez intéressant parce qu'il a monté très rapidement. Vous en avez parlé beaucoup quand il était devenu Premier ministre et il est descendu très fort. Et là, évidemment, lui aussi songe probablement à sa mort, entre guillemets, politique. Mais pour l'instant, en fait, il est assez ambigu sur ce qu'il va faire. Hier, il a annoncé ses démissions, mais c'est des démissions soumises à la formation d'un nouveau gouvernement. Et comme on va en parler, le nouveau gouvernement, on n'en voit pas encore la face et le profil. Donc en fait Renzi prend du temps et on va voir si vraiment il veut partir de la politique.
Comment expliquez-vous, Anaïs Ginori, la montée très rapide et la descente extrêmement rapide de Matteo Renzi, qui a quelques mois encore était le symbole de la modernité en politique, alors qu'aujourd'hui il ne fait pas donc 20%?
C'est un parcours assez fascinant. Je pense que ça peut même inspirer des réflexions à l'étranger. Effectivement, il a monté. Il avait presque eu aucun rôle politique national jusqu'au printemps 2014, quand il a été nommé Premier ministre avec une manœuvre de palazzo, comme on dit, dans les couloirs du pouvoir. Il a réussi à prendre le pouvoir et devenir un Premier ministre sans avoir eu avant beaucoup d'expérience nationale et il a été tout de suite très populaire. C'est vrai qu'il était, il s'était présenté avec cette image de rottamatore qui veut dire mise à la casse. Voilà, on est toujours dans ce que ça peut être l'équivalent de ce que vous avez appelé vous dégagisme. Il voulait renouveler la classe politique de gauche, incarner cette social-démocratie que l'Italie a eu du mal à avoir, changer l'ADN du parti démocrate et de la gauche italienne. Et il a eu aux élections européennes, quand il était au pouvoir, il a eu un score inouï, c'est-à-dire 40% des voix. Aujourd'hui, dimanche, le Parti démocrate a eu 19,1% des voix. C'est un minimum historique. Donc, il a perdu en moins de deux ans 5 millions de voix, on a calculé.
Incroyable.
5 millions de voix. Et c'est bon, après, on pourra voir, parce que ce qui est intéressant, c'est que une partie de ses électeurs, presque un électeur sur trois qui a abandonné le Parti démocrate est allé au mouvement 5 étoiles. Donc on reviendra après pour expliquer la complexité de cette situation électorale et de ce mouvement qu'on voit en cours.
Alors le mouvement est complexe, mais la carte électorale italienne, elle est très simple. C'est-à-dire que la botte est vraiment coupée en deux. Il y a le Nord et le Sud. Le Nord a voté principalement pour entre la coalition donc de droite et de centre-gauche. Le Sud à voter pour le mouvement 5 étoiles. Comment vous expliquez ces clivages? Comment expliquez-vous le fait qu'il y ait, on va dire, deux Italies sur le plan électoral?
Je dirais trois Italies, oui, trois Italies. Parce que c'est
je voulais simplifier, c'est pour ça. On avait dit que deux.
C'est droite au nord, centre qui résiste plutôt à gauche, et sud qui est vraiment une déferlante du mouvement 5 étoiles. Alors, la grande nouveauté, on va dire, la droite a toujours plus ou moins régné sur le nord, la gauche a toujours plus ou moins régné sur le centre. La vraie nouveauté, c'est ce sud qui est devenu complètement jaune, parce que c'est la couleur du mouvement 5 étoiles, dans les cartographies que vous trouvez sur les journaux. Et ça, c'est la vraie nouveauté. Ben, ça revient au fait qu'on peut pas simplifier le mouvement 5 étoiles. C'est vraiment quelque chose qu'on peut pas comparer à l'étranger. On peut dire que la Ligue ressemble au Front National, par exemple, la Ligue de Matteo Salvini ressemble au Front National de Marine Le Pen. On peut pas dire que le mouvement 5 étoiles ressemble à quelque chose en France, en Espagne ou ailleurs. Et ce mouvement 5 étoiles a gagné au Sud avec des promesses qui ne sont pas surtout anti-migrants, comme on peut l'entendre dans certains commentaires aujourd'hui, c'est surtout sur des promesses économiques, des promesses qui sont assez à gauche, parce que le mouvement 5 étoiles propose, par exemple, le revenu universel, propose une relance keynésienne de l'économie en abandonnant les paramètres de rigueur budgétaire. Donc, il a gagné sur les jeunes, les jeunes au chômage, en Italie, dans l'Italie du Sud, qui est vraiment une région très, avec une disparité économique énorme par rapport au Nord, où un jeune sur trois est au chômage. Et ces jeunes ont voté massivement pour les 5 étoiles. Et il y a aussi un côté anti-caste, anti-classe politique corrompue, qui au Sud est une grande thématique. Et le mouvement 5 étoiles, une de ses mots d'ordre, c'est honnêteté.
Justement, le mouvement 5 étoiles est aujourd'hui dirigé par un très jeune homme. Il a 31 ans, il s'appelle Luigi Di Maio. Il n'a jamais eu véritablement d'autre métier que la politique, ce qui est assez courant pour nous Français. Beaucoup de dirigeants politiques n'ont fait que de la politique. Il a eu quelques brèves expérience. Il est aujourd'hui donc crédité de 32% des voix, et on ne voit pas très bien en fait quel lien il y a entre cet homme très propre et Beppe Grillo, qui est une sorte de comique hableur et extrêmement populiste, une manière d'honorabiliser le mouvement.
Oui, absolument. Alors, le mouvement 5 étoiles, né en 2009, donc il a vraiment déjà, il commence à avoir une petite histoire quand même, déjà assez longue. Et il naît en 2009 avec Beppe Grillo, qui est un peu le coluche italien, comme on l'a pu le dire. Et c'est vrai qu'il a eu différentes phases. Il a eu cette phase vraiment contestataire, anti-système. C'était le Vaffadei, avec des mots d'ordre assez forts et disruptifs. Et là, dans sa phase, dans son parcours, d'abord, par exemple, ce qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est qu'il a déjà gouverné le mouvement 5 étoiles, la maire de Rome, de la capitale.
Alors justement, parce que Virginia Raggi, la maire de Rome, était considérée comme étant une personne qui n'était pas à sa place, qui n'est pas à sa place à la mairie de Rome.
Absolument, vous avez raison. Les résultats des villes qui sont gouvernées par le mouvement 5 étoiles, il y en a plusieurs, il y a la capitale, il y a Turin, il y a eu Parme, il y en a plusieurs en Italie, sont souvent décevants, voire ils se sont divisés, il y a eu des disputes, enfin comme on peut voir dans beaucoup de partis, donc ils sont pas si nouveaux que ça, mais ce qui étonne, c'est que les électeurs apparemment pardonnent ça au mouvement 5 étoiles, ou font ce que on a pu voir aussi en France, ils font une différence entre le gouvernement local et le gouvernement national, puisque le système, avec le S majuscule, entre guillemets, ce qu'on appelle le système, pour eux reste corrompu, reste dans les vieux partis, donc même si Rome est mal gouvernée en ce moment par Virginia Raggi, ça ne veut pas dire que le mouvement 5 étoiles ne peut pas bien gouverner l'Italie, au moins c'est ce que pensent certains électeurs.
Et on retrouve un certain nombre de slogans qui sont des slogans qui résonnent à nos oreilles françaises. Par exemple, Luigi Di Maio, donc ce leader du mouvement 5 étoiles, dit « Nous cherchons à dépasser les idéologies en nous fixant plutôt des objectifs ». Ça ressemble un peu au discours de La République En Marche.
Ah, mais c'est sur le papier, si on disait, il y a un en Italie, le mouvement qui a gagné, c'est un mouvement ni droite ni gauche. C'est un mouvement qui se veut au-delà des idéologies pragmatiques. C'est un jeune qui n'a pas d'expérience politique et qui est plutôt.
Qui n'a fait que de la politique.
Oui, voilà. Voilà, on pourrait vraiment penser qu'on est en train de parler de La République en Marche et d'Emmanuel Macron. Sauf que Luigi Di Maio, il a quelques problèmes d'italien, il se trompe sur les subjonctifs, il a quand même un poids.
C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études.
Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Je pense encore ça fait une petite différence. Et évidemment, le contexte italien est très différent. Donc après, les comparaisons s'arrêtent là. Mais ce Luigi Di Maio, il est en fait, on a l'impression qu'un peu c'est une feuille blanche à écrire. Donc on peut imaginer qu'il sera tout et le contraire de tout. Et d'ailleurs, lui-même, il joue sur ça. Je pense que vous l'avez dit avant, il a imposé au mouvement 5 étoiles une énième phase qui est cette phase actuelle de parti de gouvernement. Il a voulu créditer le mouvement 5 étoiles comme un parti de gouvernement. Il arrondit beaucoup les angles. Le mouvement 5 étoiles proposait un référendum sur l'euro. On n'en parle plus du tout. Il était assez dur sur les migrants parce que justement, il jouait aussi sur le tableau des électeurs de droite. Là, il parle beaucoup moins des migrants. Ils ont ouvert aux alliances. Ils ont longtemps refusé toutes les alliances, un peu comme le Front National de Marine Le Pen. Maintenant, ils parlent des alliances. La première chose que Luigi Di Maio a dit après le vote, c'est qu'il veut parler avec tout le monde et faire des alliances. Donc voilà, un peu l'homme qui veut transformer cet ovni politique en une force de gouvernement. Après, c'est à voir s'il va y réussir.
Est-il possible qu'il y ait une alliance avec Matteo Salvini ? Matteo Salvini, lui, incarne le parti d'extrême droite. Ce sont donc les deux premiers partis, 5 étoiles et extrême droite. Une alliance était a priori impossible entre ces deux partis.
C'est-à-dire que Matteo Salvini, le leader de la Ligue, qui a pris la Ligue lui aussi, c'est le protagoniste d'une grande transformation parce qu'il a pris la Ligue en 2013. La Ligue, qui est aussi un parti très ancien et qui remonte aux années 90, un parti qui était régionaliste. Matteo Salvini a réussi à transformer ce parti qui était très en crise en un parti national. Lui, il n'a aucun intérêt maintenant à faire une alliance avec le Mouvement 5 étoiles parce qu'il a justement fait un espèce de hold-up sur toute la droite en étant premier dans cette coalition avec le vote de dimanche. Il a tout intérêt, si Berlusconi, là on revient à la question initiale, si Berlusconi va quand même se mettre un peu en marge, c'est Salvini qui va devenir le chef de la droite italienne. Et donc pourquoi se mettre avec un mouvement 5 étoiles qui est au 32% où Salvini serait un allié de son grand plan.
Oui, il dit qu'il ne veut pas de minestrone.
Oui.
Pour signifier qu'il ne veut pas d'une alliance qui ne serait pas une alliance véritable. Il a effectivement, comme vous l'avez dit, Anaïs Ginori, transformé ce mouvement d'extrême droite qui était un mouvement régionaliste en un mouvement contre Bruxelles et les eurocrates. Ça rappelle quelque chose.
Absolument, mais on a parlé, quand Matteo Salvini est arrivé au pouvoir dans son parti, on a parlé de l'eupénisation de la Ligue. Il a vraiment revendiqué une inspiration avec Marine Le Pen, dont il est allié, il est ami. C'est vrai qu'il a un peu, entre guillemets, copié certains mots d'ordre du Front National sur la sortie de l'euro, sur les migrants, sur même une certaine idée de protection sociale que la Ligue reprend. C'est différent par rapport au mouvement 5 étoiles, mais la Ligue a aussi pris un électorat de gauche avec certains thèmes sociaux. Donc oui, il y a une comparaison. Là, c'est vraiment, pour le coup, il y a vraiment une comparaison affichée et revendiquée entre Ligue et Front National.
La question des migrants est une question qui a été centrale dans l'élection italienne.
Oui, absolument. C'est une question qui est centrale. Bon, l'Italie, par sa frontière géographique, est en premier plan. Et c'est vrai que là, le sentiment d'être abandonné par l'Europe est vécu par beaucoup d'Italiens. Moi, je ne suis pas de celle qui pense que l'Italie est en train de devenir raciste parce que on met le focus évidemment sur des épisodes qui sont terribles, mais ça ne doit pas faire oublier que l'Italie a accueilli 600 000 migrants dans les dernières années, et que tous les jours, il y a des histoires d'accueil énormes, surtout en sachant que c'est un pays qui, jusqu'à il y a 20 ans, était un pays d'émigration. Donc on découvre ce qu'est l'immigration. Donc je pense que la réaction de l'Italie est quand même très, très de tolérance et d'accueil. Bon, évidemment, il y a des tensions et on commence à les voir, mais le problème, c'est que et là, le Matteo Renzi, on peut lui mettre ça à sa décharge, c'est qu'il s'est battu quand il était au gouvernement pour avoir un soutien de l'Europe, pour avoir des aides, pour avoir des financements, pour avoir des moyens, parce que l'Italie se trouve retrouvait à faire les sauvetages en mer Méditerranée pour éviter les naufrages des migrants toute seule, parce que évidemment on se retrouve avec tous ces ces arrivées de personnes qui ne veulent pas venir en Italie, qui veulent seulement transiter par l'Italie. Donc, et Matteo Renzi a obtenu très peu, et les autres gouvernements aussi. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une responsabilité de l'Europe. D'ailleurs, Emmanuel Macron a eu l'honnêteté de le dire dans son premier commentaire sur le résultat italien.